Quand j'étais enfant, j'allais souvent à la pêche avec mon père. Je me souviens qu'une fois, il avait attrapé un otu, un poisson plein d'arêtes, et il s'envoyait mille misères avec le dégorgeoir pour enlever l'hameçon parce qu'il s'était accroché au fond de la gorge. Devant ce triste spectacle, j'ai dit « Pauvre poisson !» Alors, sur un ton fâché, mon père a dit « Il n'avait qu'à garder sa bouche fermée !» Cette histoire est très symbolique. Le sage dit « Le sot lui-même passe pour sage s'il sait se taire. Qui tient sa bouche close est intelligent. » Je commence à lire le chapitre 3 de l'épître de Jacques. « Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez. Nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. » Verset 1. « Mes frères » est un terme affectueux, mais il sert également de transition. Jacques change de sujet et passe de l'obligation pour le croyant de produire des œuvres dignes de la foi à la nécessité de maîtriser sa langue. Il s'adresse premièrement à ceux qui enseignent afin qu'ils examinent leur motivation. Il vise évidemment les faux frères de tout poil et pas ceux qui avaient vraiment reçu de Dieu le ministère de la parole comme les apôtres, les prophètes et d'autres qui étaient qualifiés pour enseigner. À ce sujet, l'apôtre Paul écrit « Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. » Oui, mais seulement dans la mesure où il remplit un certain nombre de conditions qui sont énumérées dans le Nouveau Testament. Au premier siècle, beaucoup d'enseignants recherchaient avant tout l'admiration et le prestige dont le peuple gratifiait les rabbins. Il faut dire que dans certains milieux, prendre un rabbin chez soi et pourvoir à tous ses besoins était considéré comme un geste de piété par excellence. Alors, ces derniers profitaient de l'estime que leur vouaient les Juifs pour mener la grande vie. Bien qu'ils étaient supposés travailler et ne pas être rémunérés pour leur service, ils acceptaient sans trop se faire prier de vivre au crochet de leurs fidèles. À cette époque, les réunions d'église se passaient comme dans les synagogues. On donnait toute latitude à quiconque et même aux étrangers de passage pour prendre la parole. L'apôtre Paul a souvent profité de cette courtoisie offerte aux visiteurs. D'ailleurs, c'est dans ce contexte qu'il écrit « Lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation, celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation, que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. » Cette possibilité de parler ouverte à tous entraînait des abus et beaucoup en profitaient pour se mettre en valeur. Jacques avertit donc ceux qui veulent enseigner de ne pas prendre la parole de Dieu à la légère, mais de la dispenser avec le plus grand sérieux. Si le mauvais usage de sa langue dans les conversations banales est déjà grave, alors utiliser la parole de Dieu en public pour se mettre en avant et se dorer le blason est bien pire. Les épîtres du Nouveau Testament montrent bien que les faux enseignants qui s'étaient introduits dans les églises étaient nombreux et dangereux. Jésus a donné des avertissements sévères et même terrifiants aux pharisiens et aux spécialistes de la loi parce que quand ils enseignaient, leur motivation était de se faire voir et admirer aux yeux du peuple. Je continue le texte. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Verset 2. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Jacques était un homme humble. Ici, il s'inclut dans ceux qui se rendent coupables de bien des manières. Mais dans ce chapitre, il s'intéresse plus particulièrement aux péchés que commettent ceux qui ont la langue trop bien pendue. La parole est ce qui distingue le plus l'homme du monde animal. Les baleines communiquent par ce qui ressemble à des chants et les singes par des grognements. Les oiseaux aussi possèdent un répertoire de sons qui varie d'une espèce à l'autre. Cependant, l'homme seul peut exprimer des pensées complexes et abstraites au moyen d'un enchaînement logique de mots qui obéissent à une syntaxe. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte. Le mot traduit par « état d'adulte » veut dire « parfait » dans le sens de « complet, mature et mûr ». Selon la loi, les Juifs devaient offrir en sacrifice à l'Éternel des animaux parfaits, c'est-à-dire non chétifs, qui avaient l'air en parfaite santé et auxquels rien ne manquait. Pareillement, on dit qu'un insecte est parfait quand il a toutes ses pattes, ses ailes, ses antennes et tout le reste. Il est parfait en apparence seulement, mais pas au sens absolu du terme, car comme tout être vivant, il est disproportionné quelque part. Tout le monde conviendra que la perfection n'est pas de ce monde. Cependant, pour ce qui est du contrôle parfait de la langue, l'apôtre Pierre écrit de Jésus « Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. La langue et le parler révèlent qui je suis vraiment dans tous les domaines. Mon niveau d'instruction, mon pays et ma région d'origine, ma culture, mes préférences, mon état intérieur et bien sûr, ma moralité. Mais quand Jacques dit que celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est capable de maîtriser aussi son corps tout entier, il pose un postulat qui donne à réfléchir. Il est bien vrai que la langue répond au quart de tour, quasi instantanément, à toute sollicitation de péché en parole. Alors si je contrôle ma langue et par mes paroles honore Dieu et Jésus-Christ, je montre par là que ma vie est spirituellement saine. L'inverse est tout aussi vrai. David a écrit « Je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme bâillonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. » Je dois avouer que quelquefois je serre les dents afin de ne rien dire, mais pas toujours. Si je possédais un enregistrement de tout ce que j'ai dit le mois dernier, je n'aurais pas du tout envie de le rendre public en le balançant sur l'Internet. Je continue le texte. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Verset 3. Afin de prouver l'importance de la maîtrise de la langue, Jacques va montrer la disproportion entre sa petite taille et son pouvoir extraordinaire qui se voit dans les effets qu'elle produit. Il va utiliser trois illustrations de la vie quotidienne. L'emploi de phénomènes naturels connus imprégnait la pensée juive et c'était la façon d'enseigner de Jésus. La première image de Jacques est le mort, qui est un petit objet placé dans la bouche du cheval et qui est attaché à la bride et aux rênes, ce qui permet de contrôler la tête et donc tout l'animal. Sans le mort, le cheval est très difficile, voire impossible à maîtriser. Si on veut le monter ou lui faire tirer une charrue, il faut le brider, sinon il risque de se fâcher, de s'emballer. Et alors, à cause de sa taille et sa puissance, il devient très dangereux. Pareillement, l'homme doit apprendre à se maîtriser en tenant sa langue en bride, ce qui fait d'ailleurs partie de l'éducation des enfants. Cette maîtrise de soi est particulièrement importante pour un croyant s'il veut être utile à son maître. Je continue le texte avec la seconde illustration. Pensez encore au bateau, même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Verset 4. Au 1er siècle, les plus grands navires étaient relativement petits comparés aux paquebots gigantesques et aux navires de guerre de l'époque moderne. Cela dit, le bateau à bord duquel Paul s'est rendu à Rome était déjà d'une belle taille puisqu'il transportait quand même 276 passagers. Mais quelles que soient les dimensions d'un navire, par rapport à sa taille, le gouvernail est très petit et pourtant le pilote peut facilement le diriger comme il veut. C'est plus difficile par vent violent, mais il y arrive quand même, sauf bien sûr s'il s'agit d'une énorme tempête. Même si la langue non maîtrisée est un instrument dangereux, elle nous est indispensable. En effet, la meilleure façon de donner des ordres est par voie orale et de manière intelligible si on veut être compris. L'apôtre Paul écrit « Si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. » Pour ma part, j'essaye de donner un enseignement clair et pertinent par ces études. Je les prépare en restant le plus simple possible tout en utilisant un vocabulaire varié, des expressions imagées et parlantes, et je me répète volontairement. Tout ça afin que la parole de Dieu soit le mieux comprise possible. Je m'efforce de placer les vérités des Écritures sur le rayon du bas de façon à ce que tout le monde puisse les prendre. Cela dit, je sais bien que pour atteindre les cœurs, il faut que Dieu intervienne et bénisse sa parole. Salomon a écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. » Je continue le texte. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Verset 5. La troisième image est le petit feu qui enflamme une grande forêt. Alors que les deux exemples précédents, diriger un cheval et un navire, avaient un aboutissement positif, le troisième est très négatif. Le petit feu incontrôlé peut devenir un incendie qui détruit tout. Pareillement, les effets d'une langue non maîtrisée sont disproportionnés par rapport à sa taille et les conséquences peuvent être dramatiques. C'est aussi ce que les livres de sagesse de l'Ancien Testament enseignent. La langue est un petit organe et elle se vante de grandes choses. L'homme étant un être foncièrement égocentrique, de nature, il a tendance à s'exalter. Mais en s'élevant de cette manière, il rabaisse les autres. Parce que la langue est tellement dangereuse, je veux rappeler ce que l'apôtre Paul écrit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Fin de citation. Je continue le texte. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, le monde du mal. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Verset 6. Le mot géhenne apparaît 12 fois dans le Nouveau Testament. Il vient du nom de la vallée d'Hinnom au sud-ouest de Jérusalem. C'était une fosse profonde où on jetait les ordures, les cadavres d'animaux et des criminels exécutés. L'endroit avait d'abord été utilisé par des Cananéens puis par les Israélites qui sacrifiaient leurs enfants par le feu à l'idole Moloch. Après que Josias, roi de Juda, ait mis fin à cette pratique abominable, l'endroit fut considéré comme impur et impropre à tout usage décent. On l'utilisa donc comme dépotoir, en y transportant tous les déchets de la ville de Jérusalem et des environs pour les brûler. Comme le feu y brûlait en permanence et qu'il y avait toutes sortes de vermines, cet endroit vint à représenter l'enfer. Jésus utilise le mot « géhenne » 11 fois sur 12. Ce qui fait de lui le personnage biblique qui a le plus parlé de ce lieu de perdition. Le feu est un élément indispensable à toute civilisation. Contrôlé, il produit de la chaleur, il cuit les aliments, il génère la puissance qui fait tourner les roues de l'industrie et il permet de fabriquer des quantités d'objets. Mais non maîtrisé, le feu est particulièrement dangereux. La flamme de la plus petite allumette ou d'un mégot mal éteint peut croître exponentiellement et devenir un incendie qui détruira des milliers d'hectares de forêt, tuera d'innombrables animaux et brûlera des maisons d'habitation. Tant qu'il y a du combustible et de l'oxygène, le feu possède la capacité étonnante de s'étendre indéfiniment. Rome et Londres ont été partiellement détruits par de gigantesques incendies. À Chicago, c'est une vache qui a mis le feu à la ville en renversant une lampe à huile. La langue est comme un feu. Domptée, c'est une bénédiction, mais incontrôlée, elle fera beaucoup de mal. Le sage écrit « Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. » Avec sa langue animée par Satan, l'apôtre Pierre a essayé d'empêcher Jésus d'aller à la croix, mais avec la même langue, il lui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Avec sa langue, Pierre a renié son maître trois fois. Mais le jour de la Pentecôte, Dieu l'a utilisé pour donner le premier grand sermon chrétien, ce qui a produit la conversion de milliers de personnes à Jésus-Christ et démarré l'Église. Tout comme un feu ne cesse de se propager, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Il s'agit d'une boucle vicieuse, car d'une part la langue perverse est l'instrument de quelqu'un dont le cœur est mauvais, et d'autre part elle continue à alimenter le mal qui est en lui. Jésus a dit « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur ». Supposons que dans une conversation avec un ami, je calomnie mon voisin. Mon ami essaye de tempérer mes propos. Alors, pour justifier mes dires, j'en rajoute et je me monte davantage contre le voisin. Je m'emporte et maintenant me voilà en plus contrôlé par la colère. Le sage écrit « Le vaurien mijote le mal et ses paroles sont comme un feu dévorant ». Les charbons donnent de la braise, le bois alimente le feu et l'homme querelleur attise la querelle. Ce cercle infernal ne peut être brisé que si j'accepte de reconnaître mon péché et que je me repente. Non seulement la langue méchante souille tout le corps, mais elle enflamme le cours de la vie, littéralement la roue de l'existence. La parole est au centre des relations humaines. Si bien placée, elle peut étendre son influence dévastatrice partout et aucune distance géographique ne l'arrête, surtout à notre époque de communication instantanée. Et même si je décidais aujourd'hui de ne plus calomnier, beaucoup de mal aura déjà été fait et il me sera impossible de rattraper les paroles que j'aurais dites. Comme un feu incontrôlable, elle continue à faire du dégât. Troisièmement, et le plus grave, la mauvaise langue est elle-même enflammée par la géhenne, c'est-à-dire qu'elle est mise à feu, en quelque sorte, par le mal dans toute sa profondeur et dans toute son horreur. La langue est l'instrument, et on peut aller jusqu'à dire le bras agissant du mal qui habite en moi, pour accomplir les objectifs de la GN, qui sont la destruction et la corruption morale et spirituelle. J'ai souvent entendu des gens blâmer Satan pour leurs écarts. Le diable a bon dos, mais nous n'avons pas besoin de lui pour mal faire. En parlant d'un homme pervers, le psalmiste écrit « Sa bouche est pleine de douceur, elle est plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant ce sont des épées nues. Comme une épée, leur langue est aiguisée et ils décochent leurs propos venimeux comme des flèches. » Fin de citation. Je continue le texte. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal anarchique qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Versets 7 et 8. L'homme possède une nature qui est fondamentalement rebelle, ce qui est évident par le fait qu'il a le plus grand mal à contrôler sa langue, alors qu'il est capable de dompter les animaux les plus puissants, les plus rapides et les plus dangereux. Pendant des siècles, les cirques attiraient leur clientèle grâce à des lions, des tigres ou des éléphants auxquels on faisait faire toutes sortes de prouesses. Mais la langue est plus sauvage et plus dangereuse que le plus féroce des animaux et aucun homme n'a de lui-même la capacité de la maîtriser. Même les croyants pieux ont des difficultés à se contrôler. Le grand roi David a prié Dieu disant « Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance, veille aux portes de mes lèvres. » Le mensonge peut avoir des conséquences dramatiques. L'Ancien Testament rapporte l'histoire d'un certain Naboth qui a refusé de vendre sa vigne au roi impie Akab. Alors la reine Jézabel a conspiré avec deux hommes pour le faire accuser faussement de blasphème, ce qui a valu au pauvre homme d'être lapidé. Jésus lui-même a été mis à mort à cause de mensonges. Étienne, le premier martyr chrétien, fut exécuté parce qu'on l'avait faussement accusé de blasphème contre Moïse et contre Dieu. Les premières fois que j'ai lu la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel, j'ai trouvé que Jacques exagérait. Mais maintenant, je trouve qu'il dit l'absolue vérité.